Le sujet ce matin est, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, il traite la question des jugements où Dieu, il prépare, il guide l'histoire et c'est lui qui aussi, c'est lui aussi qui l'a conduit vers sa fin. La question que nous abordons ce matin est celle du jugement et de la justice. C'est vrai que nous n'en parlons pas dans notre vocabulaire individuel, mais je crois que dans les médias et on parle de la justice. Par exemple, la semaine passée, on a attribué aux enfants morts avant la naissance le statut d'individu. Donc, ils ont été reconnus comme étant des personnes à titre entier pour qu'on reconnaisse qu'ils existent et qu'ils aient donc aussi des droits dans ce pays, dans notre pays. Ou encore, certaines personnes éprouvent de la justice ou de l'injustice personnelle. Parfois, la vie qui n'a pas abouti comme on l'aurait souhaité. Parfois, ces plans n'ont pas développé. Et on a un peu gardé une certaine rancune, une certaine, et dire à Dieu, mais Dieu, de toute façon, t'es injuste. Ou encore, on peut avoir la question, pourquoi le mal? Et là, on peut comprendre qu'il y a le mal, on peut chercher des réponses, et c'est une question bien délicate et bien difficile. Et on peut avancer lentement, avec beaucoup de précautions. Néanmoins, quand il revient à voir pourquoi l'injustice, où est Dieu, que va-t-il faire, c'est tellement délicat que ça revient pour aussi, je dirais, mettre nos cœurs vraiment au clair devant Dieu. Et cette question, parce que notre face à cette question détermine énormément, énormément de choses. Et souvent, puisqu'on n'est pas satisfait à considérer que Dieu nous a traités avec justice, on refuse de voir aussi son amour. On ne peut pas le voir. Cette question donc est abordée dans en Apocalypse, chapitre 8 et 9, et si vous avez une Bible, je vous invite à y tourner pour quelques minutes. Chapitre 8 du livre d'Apocalypse. Déjà l'Église a été scellée, a été mise de côté pour être protégé. Et si nous sommes chrétiens ce matin, si nous avons où qu'on soit grand-père, grande-mère, qu'on soit enfant, si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, il nous connaît, il a promis de nous donner son esprit, sa présence, pour nous conduire jusqu'au bout. Et c'est une protection énorme dans cette vie. Et puis, ça c'était le chapitre 7. Maintenant, au chapitre 8, il y a un silence pendant une demi-heure. Et Jean vit, verset 3, verset 2, 7 trompettes qui furent données. Verset 3, un autre ange vint se placer sur l'autel et tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or devant le trône, la fumée des parfums monta avec des prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Dieu agit, Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas non plus très lointain, il agit. Et avant d'agir dans la cosmologie biblique, où, quand on voit jusqu'aux cieux, on voit que Dieu est là. Et même, il fait silence pendant une demi-heure pour pouvoir recevoir, pour pouvoir entendre toutes les prières. Et mes frères et mes sœurs, nous avons toute raison de déverser ces inquiétudes, et même si on suit les hommes de Dieu de la Bible, même ces mécontentements. Job, Abraham, Moïse figurent parmi ceux qui osaient parler avec Dieu de leur mécontentement. Mais en parlant, ils ont trouvé que Dieu prête l'oreille. Et je vis donc, pendant une demi-heure, j'ai entendu un silence. Lorsque les anges ont fait monter les prières de tous les saints, qu'on soit nouveau à la foi, qu'on soit expérimenté dans la prière ou dans la foi, toutes les prières sont là, recueillies devant le trône de Dieu, dans les encensoirs d'or. Nos prières ont une valeur, Dieu les entend, ce sont les anges qui les recueillent. Nous avons toute raison de prier. Et l'encensoir dans la main de l'ange est versé. Alors j'espère que notre encensoir n'est pas vide. En tout cas, tout encouragement de remplir, de mettre nos prières devant Dieu. Et Dieu les écoute. Il fait silence pour pouvoir prêter attention à ce qu'on dit. Au verset 5, l'ange remplit l'encensoir du feu de l'autel et le jette sur la terre. Et il y eut suite à ce qu'il avait, le contenu de cet encensoir, nos prières, il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Ici, c'est la fin des temps, mais nous avons besoin, et tout encouragement, de prier. De prier, quand bien même qu'on puisse dire, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu ces réponses. Patience. Dieu les remplit. Il les recueille. Il met à notre disposition les anges. Plus du texte biblique nous en parle. Donc, nous avons toute raison de déverser nos inquiétudes, nos frustrations, nos difficultés, et de les mettre devant Dieu. Aussi, pour les personnes qui sont en difficulté, ce sont nous, le peuple de Dieu, qui peut intercéder. Ou quand on voit l'injustice autour de nous, ou quand on voit des combats sociaux, ou quand on voit des personnes persécutées, comme Porte Ouverte nous annonce chaque mercredi pour le fil rouge. Cette semaine, c'était un homme, un père de famille en Égypte. Sur sa carte d'identité, il était marqué musulman. Il a voulu changer. Il était devenu chrétien. Il a saisi les autorités pour demander qu'il soit reconnu comme chrétien. Il était menacé de mort. Il vit depuis 8 ans dans la clandestinité. Et on demande qu'on prie pour d'autres personnes qui n'ont pas ces privilèges de liberté, de venir librement devant Dieu pour chercher sa face. Merci Daniel et les musiciens ce matin qui nous ont conduits devant le trône. Mais nous pouvons donc intercéder et nous pouvons prier pour d'autres personnes qui sont en difficulté, qui sont en danger. Le Christ, un dernier mot, et puis il faut qu'on passe sur la prière, a dit, en parlant d'une juge inique et d'une veuve qui n'avait personne, qui était sans puissance, aucune autorité, mais qui, de par sa persévérance, a, entre guillemets, littéralement cassé les oreilles, C'est littéralement du juge. Et Dieu a, le juge a répondu. Et c'est le Christ qui nous donne cette illustration pour nous dire, c'est comme ça que je vous demande de prier. Que vous demandiez jusqu'à ce que Dieu exauce. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tarderait-il à leur sujet? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Christ s'intéresse aux injustices et il attend. Il veut que nous, le peuple de Dieu, nous saisissions les autorités célestes, si vous voulez, pour demander que Dieu lui-même intercède. Il agisse en notre faveur et dans la faveur des démunis. Quand il vient, verra-t-il notre foi? De deux, nous voyons donc un artiste qui représente les anges qui portent devant le trône pour ouvrir sept trompettes qui sont des images, sept c'est le chiffre saint, de ce que Dieu fera. Et dans son temps, Dieu aussi répondra. Dans les versets qui suivent, les versets 7 à 12, Dieu envoie comme un navire de la garde-côte des tirs, parfois qui traversent juste avant l'autre bateau pour lui dire arrêtez. Parce que si on ne répond pas, si on ne répond pas à l'appel de Dieu, Dieu il prend des moyens plus grands. Quelqu'un a dit, Dieu a tout un coffre, toute une boîte à outils de taille de marteaux différentes. Il a des tout petites tailles, des marteaux de geôlier, avec délicatesse, parfois si on écoute, mais parfois aussi, il a des gros marteaux réservés pour que, quand on n'entend pas. Mais Dieu, il commence par quatre trompettes, dans le livre d'Apocalypse, qui présente ces tirs avant le bateau, ces tirs sur la nature, qui ne touchent pas la vie de l'homme, pour dire, on est en difficulté, on est en danger, et si on continue, le danger est si grave que vous risquez, vous êtes en péril éternel. Et Dieu ose parfois, par amour et par clémence, prendre et tirer ou taper devant nous, autour de nous, dans ce monde, pour nous mettre en garde. Les trois premières trompettes, dans les versets 6 et 7, la première trompette, il y eut de la grêle, et qui fut jetée sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé. Verset 8. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne, embrasée, fut jetée dans la mer. Les tiers de la mer devint du sang, les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau et tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes meururent de ces eaux devenues amères. Et puis le quatrième ange sonna une trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles qui étaient obscurcies. Tout simplement, Dieu il avertit. En 1994, le 7 mars, il y eut un tremblement de terre en Californie du Sud qui a secoué trois villes notoires pour l'industrie de films pornographiques, une industrie de 3 milliards de dollars chaque année. Et cette industrie fut mise à genoux par ce séisme. Chaque distributeur, d'une totale d'environ 70, a souffert des dommages. Le plus grand, VCA Image, s'est effondré, détruisant des copies et de l'équipement. Un exécutif, bon, les modèles de pornographie et les exécutifs étaient bien énervés. Un exécutif a répondu de San Fernando Valley, a dit que les acteurs pornographiques manquaient de motivation, entre guillemets, cela a mis en eux la crainte de Dieu, cela doit vous donner une attaque de religion. Fin de citation. Il y a parfois où Dieu a besoin de tirer autour ou de montrer autour de nous qu'il y a des limites et qu'il n'est pas là-haut en train de laisser que tout s'arrête et puis il récupère les morceaux. Dieu est actif, il le promet, mais rappelons-nous aussi qu'il se sert de nos prières. Nous avons donc toute raison de persévérer dans la prière, d'être assidus à prier Dieu, jusque ce que Dieu soit, il ôte le fardeau de nos cœurs, jusque ce qu'il exauce nos prières. Un tiers fut détruit. Déjà, Dieu est un Dieu miséricordieux. Quand il y a des choses qui vont mal, ou quand il y a des problèmes dans la vie, parfois, c'est la souffrance qui devient un conseil. Où Dieu veut nous parler. J'étais parti à Paris avec notre fils aîné pour son anniversaire. J'étais un peu distrait, je faisais un peu le guide de tourisme, en même temps, connaissant pas très bien la ville. Je roulais le long du quai, du rive droite de la Seine, et j'ai voulu tourner vers l'île de la Cité pour prendre un petit, un quartier latin, un petit repas sympa. Et quand j'ai pas vu, parce que j'ai joué de guide touristique, j'ai pas vu le panneau, il te dit courbe de bus. Oh, je tourne, j'arrive. Et là, face à moi, je vois les policiers avec le sifflet. C'était pas le bon moment, je me suis dit. Et j'essaie d'expliquer, plaque 78, je ne connaissais pas, j'ai pas vu le panneau. Ils ont pris 25 minutes pour, en tout cas, écrire la PV. Et j'étais un peu honteux parce que c'était pas moi, j'étais devant l'adolescent et son père qui veut quand même être un bon père, mais en même temps qui évidemment ne se situait pas à Paris. Et j'étais frustré, j'ai voulu aussi crier. C'est pas juste, je me suis trompé, je me retrouve dans une couloir de bus. Mais quelque part, je crois que Dieu, il a un plan d'avertissement. C'est vrai que je cherche à faire attention à ma conduite, mais je glisse. Et je n'ai pas le droit. Je crois qu'il faut que je revienne être plus carré dans ma façon. C'est vrai que je n'ai pas vu le panneau. Et j'ai fait le demi-tour, et une autre fois, quand j'étais sur Paris, le panneau était bien là. Les policiers n'étaient pas en erreur. Ils avaient tout le droit de me donner le PV de 90 euros. Quelque part, j'ai roulé d'une façon beaucoup plus prudente en rentrant. On était en Suisse il y a quelques temps, et on s'était paumé. Mais j'ai respecté toutes les lois très très nettement parce que dans les grandes villes que je ne connais pas, je ne joue plus avec l'inconnu. Je suis très très circonspect, très très carré maintenant, surtout dans les grandes villes. Et je crois que c'est bien, je crois qu'en tant que chrétien, c'est bien. Dieu m'a fait du mal, dans l'intention aussi que je fasse plus d'attention. Et ça m'a fait mal, et sur le vif, j'avais chaud. J'étais pas content. Auprès du policier, ils auraient pu quand même comprendre. Mais quelque part, c'est vrai que quand il nous arrive des travers, quand il nous arrive des obstacles à en tenir conseil, en tirer profit, que Dieu lui-même, il veut nous parler. Je crois que c'est très important pour chacun de nous. Dieu laisse ce terrain, qui est un terrain un petit peu neutre, où jusqu'ici, il n'a touché qu'à la terre, bien qu'un tiers de la terre fût détruit. Et deux aigles maintenant montent aux cieux et crient entre le troisième, écrit au verset 13 et 14, la fin du chapitre 8, « Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Et quelque part, Dieu encore dans ses miséricordes, il nous parle, il nous laisse le temps de répondre. Il nous parle par sa parole et parfois par les événements, des circonstances autour de nous. Et maintenant, avant d'aller plus loin, il envoie aussi des messagers qui disent « Attention, j'aurais bien voulu voir le panneau avant de tourner. Ça m'aurait économisé presque 100 euros. » Et Dieu, parfois, il nous envoie pour nous dire « Attention !» Nous avons une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Et pourtant, il a aussi dit, « Malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous, qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous, qui riez maintenant, que vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. » Dieu est un Dieu d'amour et Dieu est aussi un Dieu juste et saint. Et le mot justice et juste, c'est vrai que ça ne paraît pas dans notre vocabulaire quotidien, sauf parfois ministère de la justice ou les cours de cassation ou autre. Mais Dieu, quelque part, il veut nous dire la bonne nouvelle. Mais parfois aussi, il faut que pour qu'on y arrive, ils annoncent qu'on doit faire demi-tour, qu'on doit faire attention, qu'on doit respecter ce qu'il nous dit. Et donc, c'est le cas, avant de passer au chapitre 9, où il envoie pour dire malheur à ses habitants de la terre à la fin des temps. Le premier malheur, dans les versets 1 à 12. Le cinquième ange sonna de la trompette, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, elle ouvrit le puits de l'abîme, il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée des puits. De la fumée des sauterelles sortirent sur la terre, il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourmente, qu'elle causait. Était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir, la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Sur le visage étaient comme des visages humains. Elles avaient des cheveux, comme les cheveux des femmes. Le dent était comme celle des lions. Elles avaient des portrailles comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions, à des aiguillons, Et c'est dans le que qu'elle était le pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Ils ont sur elle comme roi de l'ange de l'abîme, dont le nom hébreu est Abaddon, et qui en grec se nomme Apollyon, c'est-à-dire destruction. Le premier malheur est passé, voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Donc, pour reprendre les idées principales de ce malheur, Dieu détient la clé, il donne au moment voulu un pouvoir aux malins contre ceux qui ne veulent pas, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ne répondent pas. Et là, l'affliction, le niveau d'affliction augmente. Avec un pouvoir qui est maintenant un pouvoir où, puisqu'ils n'ont pas voulu de Dieu, et puisque le royaume de Dieu pour l'éternité viendra bientôt, il décide, il demande aux hommes de prendre possession. Et ici, ceux qui n'ont pas encore pris position pour lui, maintenant, l'enjeu ou la difficulté est extrêmement rehaussé. Très rehaussé. Il monte donc avec une puissance pour détruire, une puissance qui n'est pas naturelle, elle est surnaturelle et elle est maléfique. Et Dieu les livre, et Dieu les déchaîne, et ça monte, et ça s'attaque aux hommes. Ils sont comme des sauterelles. Les sauterelles étaient un symbole de jugement dans la Bible qui descendent et qui rasent, qui enlèvent la sustenance. Il y avait quelques années, on était au Tchad, et les tiges de mil rouges et des mil blancs poussaient sur la terre rouge. Mais au bout de quelques temps, un flot, une troupe de sauterelles est descendu, tout rasé, tout mangé. Et dans ce qui était déjà la pauvreté, on a trouvé un malheur qui est descendu, qui était énorme. Et quelque part, les sauterelles sont un symbole, je ne dis pas dans ce cas-là, je ne prétends pas avoir plus de lumière sur cela, mais généralement, les sauterelles sont un symbole pour le jugement de Dieu. Et quelque part, Dieu se réserve le droit de juger, parce qu'il est juste. Moi, je ne le suis pas. Moi, je n'ose pas. Je cherche à comprendre. Je dois essayer de transmettre. Mais Dieu, il est juste. Et lui, quand même, quand il donne des sauterelles, interrogeons-nous. Y a-t-il des raisons pourquoi, dans ma vie, cet aspect s'évapore? Ou de ma vie de famille, ou ma vie professionnelle? Y a-t-il des raisons pourquoi Dieu est obligé, le Père, de venir, pas pour bénir, mais pour envoyer ce qui m'est cher? Et je crois que nous qui sommes ses enfants devons aussi simplement apprendre à écouter la voix du berger de Jésus-Christ. Et que moi-même, je dois être simplement capable de dire et de reconnaître si je suis en faute, quelque part, plutôt que d'aller de l'avant et de laisser bouffer, laisser prendre ce que Dieu veut bénir. C'est la première malheur, le premier malheur. Le deuxième malheur, au verset 13. Le sixième ange sonna. J'entendis une voix venir des 4 coins. Il faut qu'on se dépêche un peu, excusez-moi. Il délit 4 anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 2 myriades de myriades, c'est-à-dire 200 millions. J'en entendis le nombre Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Leur bouche sortait de feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche, dans leur queue. Les queues sont semblables à des serpents. Elles ont des têtes, c'est par elles qu'elles font du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres. Tout simplement, ici, nous avons maintenant les situations qui sont de plus en plus graves. Il n'y reste même pas la moitié de la terre. La destruction est imminente. Ce qui est Dieu, donc, préfère qu'on entende, notons déjà qu'il a déjà scellé son peuple. Ceux qui ont répondu sont scellés, sont mis de côté, sont protégés. Mais les autres ont du mal. Les autres qui étaient restés indécis ne se positionnent pas. Au contraire, on trouve dans ce texte qu'ils restent attachés. Alors, les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre, de bois, qui ne purent ni voir, ni entendre, ni marcher, ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Le but, c'était justement qu'ils se repentent. Le but était qu'ils entendent. Le but, c'est que l'humanité puisse tirer les leçons des jugements, des difficultés que Dieu met avec soin, un tiers par-ci, un tiers à côté, mais qu'il ne les touche pas, juste à la fin, pour qu'on se réveille. Après, ça sera trop tard, parce qu'il n'y a que l'éternité après, où ils seront loin de Dieu pour l'éternité, et livrés à des forces maléfiques, parce qu'ils n'ont pas jugé bon d'accepter le pardon et d'accepter Dieu. Chers amis, ma prière pour nous tous, pour moi-même, pour ma famille, pour nous tous, est que nous ayons des oreilles pour entendre. Que Dieu puisse nous parler comme un père. Mais il nous arrive aussi parfois, et même moi-même, que je ne vois pas. Et là, parfois, Dieu il sort le deuxième marteau, un peu plus grand pour moi. Mais je peux faire entendre. Je ne veux pas, et je ne veux pas que nous-mêmes, nous entrions dans sa présence, soit qu'on n'ayant pas fait la paix avec lui. Il conduit, il fera le nécessaire pour nous conduire vers cette paix avec lui. Déjà le Christ est mort, il nous laisse le temps, il nous donne l'invitation pour que nous-mêmes nous puissions être pardonnés, graciés de nos fautes. C'est le Christ qui les a expiés, c'est Dieu qui n'est pas en dehors de l'éternité qui attend que tout se passe, il est descendu, il est venu. Mais aussi pour nous qui sommes son peuple, nous avons une certaine responsabilité pour prier. C'est là où ça commence. Pour prier pour que quand Dieu veut agir, il a de quoi. Et pour prier pour que les cœurs ne se restent pas indifférents à Dieu ou à ce que Dieu veut faire autour d'eux ou en eux, mais que les bien-aimés, nos foyers, nos familles, nos collègues, nos amis, au lieu de durcir les cœurs, au lieu de rester indifférents, puissent répondre et que nous soyons là des personnes avec un témoignage d'amour et de pardon et de grâce et de bonnes nouvelles pour qu'ils puissent voir qu'il y a un Dieu aussi qui veut sauver. N'oublions pas nos prières. Redoublons cet aspect. Est-ce loin? Je vous laisse juger. Des queues semblables à des aiguillons, avec un pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Des chevaux, équipés pour le combat. Des têtes comme des couronnes d'or. Des visages humains. Des cheveux comme des femmes. Des dents comme qui tournent autour de la tête, des dents comme des lions, des portrails comme les cuirasses de fer, et les brides et leurs ailes comme des chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Il délie les 4 anges enchaînés sur le grand fleuve, l'Euphrate, prêts pour l'heure, le jour, le mois Et en 1987, ils ont construit un barrage sur le fleuve Euphrate. On peut le traverser à tout moment et venir pour que l'Orient rejoigne l'Occident et rejoigne le Moyen-Orient. L'armée de la libération populaire de la Chine dénombre 230 millions. C'est l'armée la plus grande du monde. Alors qu'ici, le chiffre qui nous est donné est 200 millions. C'est largement dépassé. Les têtes comme des lions et la gueule crachée de feu, de la fumée et du soufre. Et tout simplement, je crois que on ne peut pas dire que c'est trop loin, on ne peut pas dire que ces situations apocalyptiques ne sont pas pour encore. Je crois que pour être réaliste et pour être responsable devant ce que Dieu nous dit, c'est que cela peut arriver à tout moment. Et Dieu, il veut tout simplement que nous soyons prêts, que nous soyons responsables. Des pionniers faisaient face, route, à travers les grandes plaines. Des chariots couverts, tirés par les bœufs, progressaient lentement, quand ils ont vu derrière eux monter une ligne de fumée sur l'horizon. Les champs brûlaient farouchement et le feu s'approchait rapidement vers eux. Et en traversant une fleuve le jour avant, il serait impossible d'y retourner. Un homme semble avoir compris que faire et donner l'ordre d'établir un feu derrière eux. Alors, quand un espace était entièrement brûlé, le groupe s'y est tourné le dos. Comme les flammes rougissaient vers eux, une petite fille pleurait avec terreur. « Êtes-vous certain que nous ne serions pas brûlés ?» On lui a répondu. « Mon enfant, les flammes ne peuvent pas nous éteindre ici car nous nous tenons là où le feu est déjà passé. » Le chrétien, le feu est passé dans le Christ. C'est lui qui a pris notre faute. C'est lui, par lui, que nous sommes pardonnés. Mais attention, que nous marchions avec le Christ dans ses voies. Parce que le Christ a dit, il est avantageux pour toi que le seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la Géhenne. En tout cas, ça c'est le Christ, tout simplement. Il connaît notre faiblesse, il connaît nos dispositions de cœur, mais qui ne reste pas parmi nous, ceux qui ne tiennent pas conseil, qui n'apprennent pas de ce que Christ veut nous dire, mais qu'au contraire, nos vies entières soient à lui, et que lui-même, il puisse aussi avoir une liberté totale pour agir. Prions Dieu un instant. Seigneur notre Dieu, nous voulons tout simplement, humblement. Moi, je ne tiens sur aucune justice de moi-même, uniquement sur Jésus-Christ. Et quand je me présenterai devant lui, c'est uniquement parce que Jésus-Christ est mort pour moi, il a expié mes fautes. Mais nous avons tous des responsabilités autour de nous, de marcher, d'agir comme du ciel et comme de la lumière pour ceux qui nous entourent, afin que d'autres puissent apprendre de nous, de nos vies, de nos bouches, qu'il y a une espérance, qu'il y a une éternité, et que quelque part, les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes auront besoin de décider. Merci parce que tu n'es pas indifférent, merci parce que tu n'es pas injuste, merci parce que dans un sens, tu agis déjà dans ce monde et tu veux attirer les personnes vers toi. Nous, j'aimerais te demander tout simplement que tu nous donnes des cœurs là où nous n'avons pas obéi, là où nous ne sommes pas en train de marcher comme tu veux. Parle, donne-nous des cœurs qui répondent, des cœurs malléables et tendres pour t'écouter, pour notre bien, pour que quand nous, pour nous soyons prêts pour te rencontrer ce beau jour. Et nous aussi, être responsables à demander pour d'autres personnes qui ne te connaissent pas, d'autres pour qui le Christ est mort, d'autres que tu veux encore amener vers toi. Ceci, nous te le demandons parce que nous ne savons pas l'heure. C'est toi qui le sais. Aide-nous donc à nous préparer pour le mieux. Au nom de Christ. Amen.